France Inter,
RFI, Radio France Internationale,
RTBF,
Radio Télévision Suisse,
Radio Canada.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans la librairie francophone estivale. Cinquième étape de notre grand voyage à travers les cultures du monde, avec des confidences, notre séquence inattendue, des rencontres, des livres de poche et un reportage. C'est la feuille de route pour vous ouvrir des portes vers l'ailleurs. Aujourd'hui dans le club francophone, il sera question des abeilles. La dessinatrice Catherine Meurice de l'Académie des Beaux-Arts illustre un essai passionnant sur le sujet signé Jean Meurice. Vous ne verrez plus les abeilles de la même façon à la fin de cette émission grâce à cette rencontre père-fille. Nous irons au Sénégal aussi avec un libraire sur un marché de l'île de la Réunion dans un grand hôtel en France et vous entendrez Jean-François Bernardini du groupe Corse Imouvrigne, Serge Marquis et Gaël Faye.
La librairie francophone estivale. Emmanuel Kérad.
On commence cette émission avec La Confidence. Cet été, 9 personnalités nous racontent une anecdote personnelle jamais racontée dans les médias. Aujourd'hui, c'est l'écrivain Serge Joncourt, prix Femina 2020, qui vous fait sa confidence en Suisse et en public.
Se faire publier, pour moi, ça a été très long, c'est le cas de beaucoup. Hein. Et il y avait une question qui se posait à l'époque, au siècle précédent, c'était envoyer des manuscrits. Ça supposait un investissement. Hein. Je faisais pas mal de sport à l'époque, et dans une salle de sport, un grand gaillard martiniquais était vigile d'un bâtiment administratif de l'administration des impôts. Et, bon, c'était un métier tout à fait intéressant, surtout qu'il avait accès à des sortes de flottes de photocopieuses géantes qui permettaient d'imprimer 300 pages en 30 secondes. Donc quand j'ai su ça, je l'ai approché d'un peu plus près, mais il était beaucoup plus grand que moi. Et je lui ai glissé la question. Vous savez, j'écris, le problème c'est que les photocopies ça coûte cher. Donc il me faudrait une vingtaine d'exemplaires pour les envoyer un peu aux éditeurs comme ça. Il m'a fait gaillard. Pas de problème. Et donc, on s'est donné rendez-vous. Je suis allé à son bâtiment administratif, en bus, très tranquillement. Et là, comme un cadeau gigantesque, il m'a dit, ils sont là, tes manuscrits. Il en avait fait 300. À 300 pages, le poids, je ne pourrais pas l'évaluer. Mais je peux vous dire une chose, c'est que mes mains saignent encore parce que c'était dans les cartons avec des ficelles. Et j'ai éprouvé ce que c'était. Si vous voulez, je l'ai mérité un jour d'être édité. Vraiment. Vraiment.
Merci Serge Joncourt. Merci beaucoup. Après cette confidence inédite à la radio de Serge Joncourt, qui a publié Nature humaine chez Flammarion cette année, voici la séquence inattendue, notre nouveauté 2021 dans cette librairie francophone estivale. Le principe, emmener un auteur ou un artiste dans un lieu a priori improbable. Aujourd'hui, c'est Jean-François Bernardini du groupe Corse Imouvrigne qui vous emmène dans un hôtel en fin de soirée dans la chaleur et l'ambiance de l'été. Bonjour Jean-François Bernardini.
Bonjour.
Alors on est dans un hôtel. Un hôtel, c'est le lieu de passage, c'est le lieu de rencontre, les lieux d'escale aussi pour vous. Avec le groupe Imouvrigne, vous en avez fait beaucoup des hôtels.
Ouais, c'est quand on est artiste et par nature nomade, l'hôtel c'est un petit peu le lieu de l'hospitalité à travers les villes, les pays que l'on traverse. Et on essaie d'y retrouver un peu de chez soi. Et ce sont des structures dont on a tellement besoin, qui nous offrent à la fois le connu et l'inconnu, le prévu et l'imprévisible, et l'aventure aussi d'une certaine manière.
Alors là, on est au bar de l'hôtel. On entend parler anglais autour de nous. C'est très international. On est dans une grande enseigne. On va pas citer la marque, mais c'est un grand hôtel. Il y a cette ambiance un peu feutrée, un peu club aussi. Et en même temps, c'est très impersonnel, un hôtel.
Quand on est beaucoup à l'hôtel, on a justement ce sentiment-là d'une identité particulière, impersonnel. Et alors quand on y arrive avec l'énergie du groupe, c'est plus facile. Parce que
on se retrouve.
Ouais, on se retrouve.
On part de l'hôtel comme ici.
Ouais, par exemple, il y a plusieurs, on y crée l'ambiance, le biotope ou l'écosystème dont on a besoin. L'hôtel, c'est le rituel.
Ouais, c'est ça.
On arrive dans une ville, la première chose qu'on va faire, c'est d'abord de repérer l'hôtel, de déposer nos affaires, d'y passer une petite heure quand on est arrivé à 15h de l'après-midi, d'y passer une petite heure, de prendre nos bagages et de partir à la balance. Voilà. Mais on prend nos repères et surtout le groupe y prend les siens.
Les coulisses d'un groupe comme Imove Réunis, on va se diriger dehors parce qu'il y a une belle piscine, on va en profiter. Il y a du monde évidemment, mais il y a ces espaces aussi très cosy avec des fauteuils bleus, jaunes, verts, avec des espaces de confidentialité, comme on dit, pour se sentir bien. Voilà, on arrive face à la piscine illuminée de bleu. L'inattendu, l'intime, c'est de vous retrouver dans un hôtel. Qu'est-ce que vous aimez? Quels sont les lieux que vous aimez particulièrement dans un lieu comme celui-ci?
Un détail auquel je suis sensible, c'est quand il y a une salle de fitness, par exemple.
C'est vrai? Ah, il y en a une là, juste derrière, je vois la fitness inscrite.
Ouais, absolument, parce que je trouve que c'est un besoin pour moi, je en permanence, chez moi. Et donc, quand je vais dans un hôtel, c'est le premier détail que je regarde. Donc,
vous y allez vraiment? Parce que souvent, on regarde et puis on n'y va pas au final.
Non, j'y vais. Ah, sauf, bien sûr, si on est dans un rythme de tournée trop tendu, dans le sens où les départs le matin sont très tôt. Dans ce cas-là, non. Donc, ça, c'est un détail sur lequel je suis sensible. Et puis après, il n'y a pas un hôtel où on ne finit pas par inviter le personnel à nos concerts, par exemple.
Ah, c'est vrai?
Ouais. Je me souviens d'ailleurs d'une fois où on était en concert en Allemagne. C'était dans la petite ville d'Erfurt. Et je me souviens, ça m'avait beaucoup marqué parce que deux ou trois femmes de chambre de l'hôtel étaient venues au concert. Et ce soir-là, j'avais évoqué la ville d'Erfurt qui était symbolique pour les premières luttes non violentes avant la chute du mur de Berlin. Et je me souviens avoir vu parmi les deux ou trois femmes de chambre qui étaient là, il y en avait deux qui avaient les larmes aux yeux quand j'évoquais ça, d'entendre quelqu'un qui venait de France et qui avait repéré que dans des petites villes comme celle-là, ces moments-là étaient forts parce que les gens se mobilisaient dans un esprit de non-violence, etc. Donc, ouais, les rencontres, un hôtel, c'est aussi les aventures. Je pourrais raconter des tas d'anecdotes comme ça, mais ça nous offre ça. Ça nous offre de trouver avec le personnel de l'hôtel le contact, l'échange.
Alors, il y a un titre d'Imove Réunis qui est sorti le 30 juin, un nouveau titre depuis l'album Porto Incor qui est sorti il y a presque 2 ans maintenant. Ça y est, vous êtes remis en studio, il y a un album en préparation. Ce titre, vous pouvez nous en dire 2 mots?
C'est une image qui m'a beaucoup touché pendant cette période de confinement. Ça s'est passé dans la ville de Naples, en Italie, où l'on voyait des paniers qui descendaient depuis les balcons jusque dans les rues, attachés à des bouts de ficelle. C'était des paniers de la solidarité qu'un citoyen napolitain, Angelo Piccone, a eu l'idée d'inaugurer en s'inspirant d'un médecin italien qui, au début du siècle, faisait donc ses visites chez ses patients avec un chapeau en leur disant « Si vous n'avez pas d'argent, prenez un peu de ce qu'il y a dedans et si vous pouvez, vous mettez. Se non hai prendi, se poi dai. » Et cette philosophie-là, après cette période terrible que nous venons de traverser, de souffrance, de confinement, d'exigence pour tout un chacun, ce narratif positif, il fait du bien, quoi. Donc on a eu envie de chanter ce panier-là, ce geste-là. Cette chanson s'appelle Habanera et à sa manière, elle dit combien ce confinement nous a rapprochés de notre humanité, et garder le positif de ces gestes-là qui nous reconnectent à notre vraie nature, ça nous a donné envie de le chanter.
On écoute un extrait de cette chanson dans la librairie francophone estivale.
Au darigore d'un balcone,
souviens-toi, balcone,
savonige la destimone,
cette ficelle comme un témoin.
Era una
une fée, une étoile,
et à des ors, sa main d'éla,
un trésor inattendu.
Si on a prémi, c'est pas.
Thank you.
carezza,
une caresse.
Era preghiera,
une prière.
Come una vetta,
brindille.
Di primavera,
de printemps.
M'ha consolato,
m'ha consolé.
A sua maniera, m'ha consolato. Ad abbanera,
da bagnera.
Se non ha
extrait du dernier titre du groupe I Muvrini de Naples. On part en Alsace avec vous, Jean-François Bernardini, parce que vous avez une anecdote personnelle à nous raconter dans cette vie d'hôtel où on est en ce moment. On est dans un hôtel justement avec vous aujourd'hui.
Un soir, je crois que le groupe dormait dans un hôtel différent et nous étions trois et nous rentrons dans un petit hôtel en Alsace. On n'avait pas récupéré nos clés. Et donc on rentre, l'hôtel, on nous avait dit la porte est ouverte, vous rentrez, vous prenez vos clés. Et quand on arrive au bureau de l'hôtel, on essaie de prendre nos clés, mais elles étaient sur un panneau qui n'était pas accessible directement depuis l'extérieur du bureau, quoi. Et en essayant de toucher les clés, on se rend compte qu'il y avait un berger allemand qui dormait au pied du bureau. Et là, je peux vous dire qu'on a changé d'avis, quoi. Parce que je me suis dit, si lui, il se réveille, il est là pourquoi ? Il est là. Et c'était un moment à la fois d'angoisse. J'ai dit, non, mais là, on peut pas rentrer, quoi. C'est pas possible. On peut pas affronter la difficulté. Et finalement, il y avait une femme avec nous qui était plus courageuse. Et c'est elle qui est montée sur le bureau, là, et qu'on essayait de tenir pour qu'elle tende la main, en essayant d'avoir le contrôle du berger allemand, quoi, qui à la fin était tout à fait docile, quoi, qui était là, il dormait, quoi, mais qui nous a tellement fait peur. On a réussi à récupérer nos clés, mais ça nous a marqué quand même.
Oui, ça c'est le problème quand on rentre tard, en fait.
Quand on rentre tard, qu'on n'a pas prévu que le soir il n'y a pas de veilleur, il faut récupérer sa clé et qu'on se dit on va passer la nuit dehors, on va passer la nuit dans le hall.
Avec le groupe ?
Non, il n'y avait pas tout le groupe parce que là ça aurait été encore pire. Mais parfois, la vie de nomade comme ça nous donne l'occasion d'aventure. Je me souviens d'une fois d'un taxi qui m'accompagne dans un hôtel à Paris et il s'appelait Julius. Et pendant le voyage, on sympathise, il venait du Mali, et puis il commence à me raconter son histoire, et puis je lui dis, bah, viens, on va boire un verre, au bar de l'hôtel. Et il me raconte sa venue en France. Il me dit, bah, moi j'ai économisé pendant 3 ans pour venir en France, je suis arrivé Gare du Nord, un soir à 11h, bon, j'avais mon sac à dos, je savais pas, bon, j'ai vu que les gens dormaient dans la gare, alors je me suis mis là et je me suis endormi dans la gare. Et puis pendant la nuit, dans mon sac à dos, on m'a volé mes papiers et les 500 euros que j'avais. Le lendemain matin, j'ai commencé à chercher des hôtels, j'ai vu que ça coûtait 100 euros, impossible pour moi. Il a dit, j'ai marché dans les rues, j'ai vu des grandes portes dans les rues. Il a dit, comme je fais chez moi, j'ai tapé aux grandes portes et personne n'ouvrait. Il dit, là, je découvrais la France, je découvrais l'Europe. Je venais de découvrir le choc de pays complètement différents où les mœurs étaient complètement différents. Et cette rencontre avec ce taxi qui s'appelait Julius m'a énormément marqué. Et on a fini par manger ensemble dans cet hôtel-là ce soir-là. Et il m'a raconté son aventure de néo-arrivant en France où il découvrait en fait un autre monde qui a son hostilité forcément, mais où c'était aussi un choc de culture, quoi, extrêmement fort. Et pour autant, il était là et il réussissait à faire son métier de taxi aujourd'hui, quoi. Donc, ouais, ce sont des rencontres comme celle-là auxquelles des fois, être nomade et passer par les hôtels vous offre des fois des aventures et des rencontres assez enrichissantes et pour autant insolites.
Merci beaucoup Jean-François Bernardini.
Merci à vous.
Merci. Écoutez le groupe Imouvrigny. Vous allez rêver, vous allez voyager avec ce groupe et c'est l'occasion pour l'été. Merci Jean-François. Bonne nuit donc à l'hôtel.
Buona notte. Bonne nuit.
À bientôt.
La librairie francophone estivale. Emmanuel Kérad.
Le tout nouveau titre d'Imouvrigny, Apanera, est disponible depuis le 30 juin et Jean-François Bernardini est l'auteur d'un essai paru aux éditions de l'Aube. L'autre enquête corse décrypte ce qu'il appelle le trauma France-Corsica, à lire cet été sur le lieu de vos vacances. On part à La Réunion à présent avec un entretien-reportage inédit dans le cadre de cette séquence consacrée aux 15 ans de la librairie francophone. Le lien de notre programme avec l'île de La Réunion est très fort, intense, pourrait-on dire. Voici une balade sur le marché de Saint-Pierre à la découverte du piment arrangé et du safran pays.
Ces deux-là ? Ah ok, super, ça te fera 6 euros alors ce coup. Ouais.
La pâte de piment, alors qu'est-ce que c'est exactement ?
La pâte de piment, ben,
piment arrangé d'ailleurs.
C'est une tradition locale en fait, que, c'est un condiment, un accompagnement des plats typiquement réunionnais en fait. Donc tu mets ça à côté du riz, des grillades, des pâtes, des lasagnes aussi. Par exemple, le piment gingembre manque, tu peux mettre à côté des lasagnes. Enfin voilà quoi. Enfin ça ouvre l'appétit, ça donne du bon goût au plat et voilà.
Parfois c'est très pimenté.
Aussi, mais t'as aussi des achats qui sont très peu pimentés. Et c'est agréable, tu peux mettre sur des toasts. Voilà, enfin c'est de la saveur, c'est du goût, c'est saveur tradition réunion.
Tradition réunion, avec la pistache, avec l'ananas, on peut faire du piment avec de tout en fait.
C'est ça, oui.
D'accord, on peut sentir, on peut goûter ?
Bien sûr, chez moi, on goûte, on sent et voilà. Ben sent.
Ah ouais, c'est top ça. Ça a l'air très bien.
Tu aimes bien pimenté ou pas ?
Ouais,
trop ?
Super pimenté.
Super pimenté.
Mais pas trop non plus, faut pas exagérer.
T'as le rouge, gingembre kobava. En fait, le vert, c'est le moins fort. Le rouge plus fort, c'est piment vert, piment rouge.
D'accord.
Donc, le rouge va être moins fort. Enfin non, excuse-moi, le rouge va être plus fort.
Le rouge va être plus fort.
Et après, si tu aimes bien, bien fort, t'as piment cabri. C'est un peu comme le piment tillé. C'est piment rond comme des cerises. Nous, on appelle ça piment cabri ou piment en bouc. Parce qu'en fait, la queue, ça fait comme un genre de bouc de chèvre, en fait. Donc, piment cabri. Bah, bonne journée et bon week-end. Eh ben j'espère, ouais. Pas de soucis. N'hésite pas, tu peux commander à Jean-Brun Métropole par Coulissimo. Ouais. Je t'ai mis la petite étiquette et tout de même.
Moi, je veux ananas.
Un petit ananas pour toi, ouais. Avec.
Je veux bien goûter le vert.
Enfin, je te laisse juger, hein.
Ouais, bah, c'est fort, oui, c'est sûr.
Mais ça, tu mets à côté du riz, des grillades, ça passe bien. Comment tu vois, ouais, ça va.
Et le rouge, il est plus fort que celui-là.
Le rouge est plus fort, mais après le truc là, tu l'as pris à vivre en fait.
Ah ouais.
Tu mets à côté du riz et tout, ça passe bien. Attends deux
minutes. D'accord. C'est gentil, merci. Un petit samoussa pour faire passer. Vous en pensez quoi ?
Ça sent très bon. Ça donne envie de manger un curry en fait.
C'est ça.
C'est vrai. Non, ça a l'air très bon.
Supporter, ouais, sans problème.
Pas sans problème, non, ça demande quand même d'être un petit peu d'habitude, un peu d'entraînement.
Vous le payez après ou pas ?
Pas.
Ça se paye le lendemain un peu.
Il paraît, ouais. Il paraît, on va pas rentrer dans les détails. Mais...
Non. On s'habitue ou pas ? Vous en mangez, vous ?
Mm-hmm.
Tout le temps ?
À chaque fois que je suis à la production, on est obligé de goûter pour voir si le taux de sel est assez conséquent ou quoi que ce soit en fait. Donc oui, moi je suis un grand mangeur de piment, oui, je suis né dedans en fait. Hein.
C'est ça.
Pas de piment.
Allez, un achat de citron et puis l'autre là que j'ai senti là.
Lequel ? Le gingembre mangue.
Ouais, c'est bien ça.
Parce que le gingembre mangue c'est le moins fort des pâtes de piment, en sachant qu'il est fort bien sûr, mais voilà.
C'est comme le vert que j'ai goûté quoi.
Non. Hein.
Vous êtes des assassins en fait.
Non mais après quand je te dis tu l'as mangé à brut en fait, direct comme ça.
Mais quand même,
ouais,
on peut manger des piments comme ça et ça va à peu près.
Ah non.
Ah bah si.
Oui, les piments végétariens là, c'est ça. Là tu sais, du piment oiseau, il y a plus de, voilà, quoi, plus de force, c'est quand même un très bon piment.
Merci.
Et merci à toi.
À bientôt. Au revoir.
Bonne journée, bon week-end.
Merci.
Salut.
Salut.
Oh viens danser, viens danser Maloya.
Vous pouvez me dire ce que c'est que la différence entre le curcuma normal, enfin normal, qu'on connaît, et en métropole notamment, et le curcuma de la plaine des Grègues ?
Oui, en fait, le curcuma, c'est le même curcuma, sauf qu'on récupère la grosse patate, et on épluche à la main, on fait les copeaux à la main, et c'est séché au soleil pendant une semaine. Et après, c'est recommandé médicinalement pour détoxiquer le corps. C'est un anti-inflammatoire.
On s'en sert pour la cuisine aussi ?
Oui, vous pouvez vous en servir pour la cuisine, mais très peu parce qu'il y a beaucoup de curcumine dedans. Pour faire le curry, une demi-cuillère, c'est suffisant.
Pourquoi très peu ? Sinon, qu'est-ce que ça fait ?
Après, ça dépend des goûts des gens, mais ça jaunit bien. C'est un goût un petit peu plus fort aussi. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas le goût du curcuma, quoi.
Un peu amer parfois.
Voilà, si on met beaucoup le curcuma amer, voilà, il y a un petit goût. C'est pas amer, mais c'est assez prononcé quand même.
Le curcuma amer de la plaine des Grègues, c'est très réputé. La plupart des chefs ici sur l'île de la Réunion conseillent d'utiliser ce curcuma pour le rougail morue, par exemple.
L'exemple, nous, comme ici, on a notre caviar, c'est le curry bichique. Les gens aiment bien prendre le curcuma amer pour mettre dans le curry bichique.
C'est un tout petit poisson.
Un petit poisson. Comme le bichique, c'est assez cher, le curcuma, c'est cher aussi. Donc, c'est notre caviar. Voilà.
Donc, après, on n'utilise que des bons produits, en fait.
Voilà. Oui, voilà.
Et comment ça se conserve, alors ?
Nous, là, on est en pleine récolte. On débute depuis le mois de juin jusqu'à novembre. Voir si on a beaucoup. Comme nous, là, on aura jusqu'à le mois de décembre. Vous mettez dans un bocal ou dans une boîte en plastique, dans un endroit sec, bien sûr, c'est plutôt dans la cuisine. Ça ne se gâte pas et voilà, ça se conserve assez longtemps.
Très bien. Bon, merci beaucoup. Je vais vous en prendre, du coup.
D'accord.
Combien c'est, les 50 grammes ?
50 grammes, c'est à 5 euros. J'ai en format sachet et en format bocaux.
Je vais vous prendre un bocal. Merci. Nicolas Rivière, donc vente directe aux consommateurs de curcuma, ici sur l'île de la Réunion, au marché de Saint-Pierre.
Au marché de Saint-Pierre et au marché du port aussi.
Merci Nathalie Rivière. Merci beaucoup.
Merci beaucoup à vous.
On quitte la Réunion et on vous raconte la vie et l'organisation incroyable des abeilles dans un instant avec Catherine et Jean Meurice qui publient un livre passionnant sur le sujet. Avant cet entretien croisé qui va vous étonner, voici le dernier titre du duo Polo et Pan qui nous fait voyager. Bon été à tous avec la librairie francophone estivale.
Souvenirs.
C'était Polo et Pan avec les jolies choses et la mer, bien sûr.
Radio-Télévision Suisse, RTBF,
Radio-Canada, France Inter,
RFI, Radio France Internationale.
La librairie francophone estivale. Emmanuel Guérade.
C'est le club francophone à présent, avec un père et sa fille pour un moment partagé autour des abeilles, avec ce livre qu'ils sortent ensemble, L'esprit de la ruche, la vie secrète des abeilles. Bonjour Catherine Meurice.
Bonjour Emmanuel.
Bonjour Jean Meurice.
Bonjour Emmanuel.
Merci d'être avec nous Catherine dans les grands espaces. Vous racontiez votre enfance à la campagne, votre rapport à la nature. Quelles sont vos relations avec les abeilles Catherine, du coup, depuis ce temps-là?
Alors je les connais moins bien que mon père, il va vous en parler après, mais j'ai toujours été observatrice, c'est-à-dire dans les grands espaces, en plein milieu de la bande dessinée, on voit un monsieur en tenue d'apiculteur qui est le père de la petite héroïne,
et, oui, c'est
mon vrai père, oui. Il existe et rien n'a été inventé.
Oui.
Et c'est vrai que j'ai beaucoup observé mon père s'occupant de ses ruches, et il en possède depuis qu'il est petit,
ouais.
Depuis qu'il a l'âge que jette dans l'album les grands espaces.
Ouais, c'est ça, c'est un peu l'œuvre à suivre en fait avec vous et l'émission à suivre, hein, parce que on vous retrouve quelques mois, quelques années plus
exactement.
Tard avec autre chose.
C'est vrai que ça, là, le livre de mon père, L'esprit de la ruche, c'est vraiment une plongée plus technique, mais à la fois très très lisible, ouais. Accessible aux profanes, mais qui, voilà, où il y a un petit bout de ça dans les grands espaces, la bande dessinée grands espaces. Ouais.
Alors Jean-Maurice, on sait donc, grâce à votre fille et à son livre, que vous avez retapé une ferme en ruine. Vous avez travaillé aussi dans le domaine de l'industrie du bois et vous êtes apiculteur amateur. Vous racontez dans ce livre comment vous avez installé de petites ruches un jour, comme ça, dans la nature, pour observer ce qui allait se passer. Ça part de là ?
Ça part de très loin. Et par le plus pur des hasards, en fait, j'ai croisé une abeille quand j'avais 13 ans, dans le verger de mes parents.
Ouais.
Je l'ai observé, on est curieux comme tous les gamins à la campagne.
Hmm. Vous étiez en retard, 13 ans, une abeille. La rencontre est tardive, hein, quand même.
Et oui, bah, je ne sais pas quel âge j'avais.
Oui, c'est ça.
et donc, ça m'a intrigué. J'ai capturé, j'ai mis dans une boîte d'allumettes parce que je voulais la protéger en me disant, bon, on va être copains, etc. Elle va bien s'installer dans ma boîte. Et elle s'est sauvée. J'ai pas compris. Je suis allé voir l'apiculteur du village qui m'a expliqué. Et ça m'a surpris quand même. C'est tout un monde qui s'ouvrait à moi. Alors j'ai acheté un bouquin. Et puis deux bouquins. Et puis trois bouquins. Et puis j'ai construit une ruche. Et puis deux ruches, etc. Et des abeilles. Et tout a commencé par là. Et par un raccourci gigantesque. Mais 60 ans après, je me retrouve avec vous en train de parler de cette abeille que j'ai rencontrée.
Grande histoire avec l'abeille. Alors c'est devenu une passion, effectivement. Jean, vous racontez tout dans ce livre. On est éberlué parfois face au miracle de la nature incarné comme ça par les abeilles. Elles sont très organisées et font preuve, on peut le dire, d'intelligence. Elles sont intelligentes, hein. Elles ont 960 000 neurones, hein, pour 10 milliards pour l'être humain.
Exact. Enfin, exact.
L'être humain normal, pas tous.
Alors, elles sont intelligentes au sens scientifique du terme.
Ouais.
C'est-à-dire que des chercheurs, par exemple, ont mis devant une ruche une assiette de miel à 100 mètres. L'abeille les repère, l'assiette de miel, vient se servir et repart. Pendant qu'elle repart, il déplace 25 mètres. Les abeilles repèrent, vont se servir, et ainsi de suite, pendant qu'elles reviennent, on redéplace 25 mètres, etc. Les scientifiques se sont aperçus qu'au bout d'un certain temps, les abeilles les attendaient plus loin, là où ils n'étaient pas encore.
Ah,
elles
oui.
avaient
oui.
décrypté
elles
le mouvement de l'homme,
oui.
elles l'avaient anticipé.
Alors la ruche est souvent comparée, d'ailleurs vous le dites dans le livre, à une société humaine. Elles sont un peu organisées comme ça dans la ruche. On va entendre le son d'une ruche, tiens justement, alors ça donne à peu près ça. Vous confirmez Jean,
je Maurice, confirme, hein.
Vous êtes déjà allé dans une ruche, non?
Je confirme.
Voilà. Donc les abeilles endossent des rôles en fonction de leur âge et de leurs aptitudes. Il y a des nettoyeuses, des nourrices, des bâtisseuses, les gardiennes, les ventileuses, les butineuses ou encore les éclaireuses. Les éclaireuses, c'est l'élite des abeilles.
Exactement.
Pourquoi ?
Exactement. Ah. Alors d'abord, les éclaireuses, oui, elles me plaisent beaucoup parce que c'est l'élite et c'est le rôle qu'elles tiennent en fin de vie. C'est-à-dire elles ont fait tous les métiers parce que toutes les abeilles passent par tous les métiers. Les éclaireuses arrivent en fin de vie et ce sont les meilleures que la ruche a sélectionnées pour leur confier un travail extrêmement difficile, éclaireuse, c'est-à-dire qu'elles vont sillonner la campagne pour repérer les sources de nectar, les fleurs, les sources d'eau, elles ont besoin d'eau également, les sources de pollen, et également extrêmement important, elles vont repérer, quand ce sera l'occasion, des nouveaux logis pour l'essaim.
Oui,
c'est-à-dire
ça,
ce sont des pilotes à tout faire
Elles dirigent en fait finalement la vie de ces abeilles. Leur installation, est-ce qu'elles doivent faire ?
Elles ne dirigent pas parce que dans une ruche, il n'y a pas de direction, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Il n'y a pas de, la reine ne dirige pas. On propose dans une ruche.
Alors c'est très démocratique. Hein, vous le racontez. Absolument. Une fois leur repérage effectué, elles font un rapport.
Exact.
Vous comparez ça à une conférence de presse.
Absolument.
Alors non, c'est ce que c'est. C'est une conférence de presse. Donc on a l'abeille, l'éclaireuse qui arrive dans une agora avec d'autres abeilles autour.
Exact.
Et elle leur explique à quel endroit il va falloir aller butiner.
Exact.
Si une abeille n'a pas compris, elle se manifeste.
Absolument.
C'est incroyable ça.
Alors c'est incroyable et celui qui a été surpris, c'est le scientifique qui l'a découvert. Parce qu'on ne le savait pas. On ne savait pas que les abeilles communiquaient par leur danse, mais également par des vibrations. On a un tas de, il y a plusieurs langages d'abeilles. Et donc le scientifique manipulait une petite abeille factice à qui il faisait faire cette danse et il parlait aux autres abeilles avec cette danse. Il ne savait pas qu'il y avait un autre langage. À un moment donné, une spectatrice, une véritable abeille, a dit à l'abeille mécanique « Stop, j'ai pas compris ». Le savant, lui, Nico, n'a pas entendu.
Ouais.
Il a continué.
Comment elle dit ça ?
Par une vibration spéciale. Avec une longueur d'onde spéciale.
On est sûr de ça ?
On l'a refait 50 fois, 10
non, mais
000
Catherine,
fois.
Non, mais vrai.
Mais attendez.
Enfin, on l'a fait 50 fois, 10 000 fois, vous imaginez. Ah tiens, là, elle a vibré, l'abeille, elle a dû parler.
Sur une certaine fréquence, mais on l'a enregistré. Mais le pire, c'est que comme l'abeille mécanique continuait, l'abeille qui n'avait pas été comprise, elle est venue la mordre en lui disant « mais t'as pas compris ?»
Ah oui.
Et là, c'est là que le chercheur s'est dit « il y a un truc ». Et c'est là qu'on a fait des recherches extrêmement approfondies, on a trouvé ce langage.
Alors les abeilles donc ne butinent pas au petit bonheur la chance,
absolument
comme on pourrait
pas
le croire, en fonction des fleurs qu'elles croisent en se baladant dans les airs.
Absolument
ça
pas.
Ça marche pas comme ça.
Absolument pas.
Et elles vont jusqu'à 4 km, hein, c'est ça ?
Elles peuvent
entre
aller à 10
km,
mais elles ne le font jamais, parce que lorsqu'elles consomment du carburant, le carburant c'est le nectar qu'elles récoltent. S'ils vont à 10 km, elles vont tout consommer. Donc le but, zéro. Elles vont à 3 km, oui.
Alors l'abeille vole à 40 km heure. En pleine saison, elle ne peut vivre que 3 semaines, dites-vous, entre 3 et 5 semaines, car elle meurt épuisée après avoir parcouru 900 km, soit 150 000 km à l'échelle humaine, soit, j'ai calculé, 27 fois Bruxelles-Montréal,
exact,
mais sans avion.
Exact.
C'est impossible.
Et si vous faites, si on continue dans les chiffres, si on additionne les kilomètres parcourus par toutes les butineuses, en une journée, ça représente la moitié de la distance Terre-Lune. En une journée.
Incroyable.
La distance de toutes les butineuses d'une seule ruche.
Catherine Maurice, vous avez mangé du miel toute votre enfance ?
Ah bien sûr, et le miel des ruches de mon père, c'est le meilleur bien sûr.
Évidemment.
non, c'est super parce que le miel nous apprend aussi à la nature, les saisons, etc. On y a le miel de tilleul, le miel d'acacia, le miel de colza qui vient en premier, ça annonce le printemps, etc.
Le châtaignier
on
aussi,
apprend
plus
les
fort,
choses comme ça. Ouais. Voilà.
Les intensités d'arômes aussi
exactement
différents.
Et ce qui est, je parle en toute objectivité de ce livre bien sûr.
Oui.
Non mais ce qui est intéressant c'est que
vous n'êtes pas du tout la fille de Jean.
Pas du tout. Non, c'est qu'on va de mystère en mystère. C'est-à-dire que c'est le fameux esprit de la ruche dont parle mon père. C'est que pourquoi est-ce qu'à un moment donné, l'essaim part comme ça d'un coup ? Pourquoi est-ce que toujours du mystère et plus cet insecte est étudié, extrêmement étudié dans le monde, plus les mystères s'ajoutent. Et c'est ça qui est génial. Et pour une dessinatrice, c'est génial parce que ça fait marcher le ciboulot et la création semble sans fin. Donc ça,
vous avez été raisonnable sur les dessins. Il n'y en a pas beaucoup.
Oui, c'était volontaire. C'est le texte qui était en vedette. Et
dommage,
dessins,
parce qu'on a envie qu'il y ait plein de dessins de Catherine.
D'autres livres, mais le dessin devait accompagner tranquillement.
Ouais,
il fallait pas que ce soit gaguesque, mais juste dire toute la poésie de cet insecte.
Alors, au cours de sa vie, l'abeille n'aura récolté que de quoi faire 7 grammes de miel. Vous y penserez le matin avec votre tartine, s'il vous plaît. Une ruche a besoin de 15 kilos de miel pour passer l'hiver, mais elles peuvent en produire 40. Mmh. Pourquoi font-elles ce surplus, à part pour faire plaisir à l'apiculteur ?
Mystère. Il y a beaucoup de mystères et plus les savants, comme disait Catherine, plus les savants ouvrent des portes, plus il y a encore des portes qui s'ouvrent derrière et qu'on a tendance à ouvrir. Il y a encore un tas de mystères. L'abeille est un des rares insectes, enfin c'est le seul que je connaisse, mais je ne suis pas un grand scientifique, qui fasse plus de provisions que ses besoins. Toutes les guêpes, par exemple, font du miel, mais uniquement pour leurs larves. Les fourmis accumulent des provisions, mais l'abeille est le seul qui accumule bien plus que ses besoins. Et même, elle accumule jusqu'à la limite de la mort. C'est-à-dire, si vous prenez plus de miel, elle va encore en faire plus.
Elle continue. Donc elle s'épuise.
Elle continue. Ouais. Elles n'ont pas de limite. Elles n'ont pas de limite.
Alors, aucune limite nulle part, hein, Jean Meurice, parce que, par exemple, avec les mâles, elles ont un rapport très particulier. Ouais. Voilà, j'espère que ça n'arrivera jamais dans la société humaine. Elles dégagent les mâles, mais elles acceptent les abeilles. Ou alors, elles dégagent les mâles quand ils coûtent trop cher. Ouais. C'est un moment quand ils servent à rien. Elle les dégage de la ruche, le pauvre bourdon, faux bourdon, va se retrouver comme ça sans nourriture, sans rien, il va mourir d'épuisement lui aussi. Mmh. En revanche, elles peuvent accepter des abeilles malades ou blessées, mmh. et elles vont s'occuper d'elles jusqu'à leur mort naturelle. Okay. En fait, les abeilles sont des féministes extrémistes.
Absolument, exactement.
Oui, c'est vrai.
Mais elles ont peut-être une revanche à prendre, parce que les abeilles, ce sont des femelles stériles. Ouais. Alors, elles ont peut-être une revanche à prendre. Et la personne qui les stérilise, c'est la reine.
Eh oui.
La reine ne supporte pas de concurrence, la reine est la seule pondeuse et elle émet une hormone qui stérilise toutes les ouvrières de la ruche.
Ouais. C'est le côté obscur, c'est Star Wars en fait, hein, la vie des abeilles. Non, mais, et la reine, puisque vous en parlez, Jean-Meurice, elle a une vie sexuelle un peu débridée, hein, si je peux me permettre.
Oh là là,
elle enchaîne en une journée entre 10 et 20 partenaires, en une journée, ils appellent ça le vol nuptial. Sympa,
voilà, mais
le vol nuptial.
Successivement, pas ensemble.
Oui. Oui, ça va alors. Bon, elles sont pas commodes non plus, parfois, parce qu'elles peuvent griller un bourdon ou un frelon en plein vol, elles s'assemblent autour du frelon, elles battent des ailes très vite, elles chauffent l'atmosphère et le frelon grille sur place.
Alors ça,
c'est leur moyen de défense.
Chose qui est extraordinaire au point de vue thermostat, parce que les abeilles savent fort bien que le frelon meurt à 45 degrés, et elles-mêmes meurent à 48 degrés. Je ne sais pas si vous voyez la pression de leur thermostat. Ouais, si elles vont trop loin, c'est elles qui meurent. Et donc elles le grillent avec une précision de 0,5 degrés Celsius.
Incroyable. Bon, les abeilles piquent avec modération aussi, vous le dites, parce que sinon elles meurent. Hein. Si elles piquent profondément, elles peuvent picoter, mais si elles piquent vraiment, elles meurent. Elles préviennent l'homme aussi avec leur bourdonnement avant de piquer. Ça, on ne sait pas trop, mais...
Bien sûr, différentes fréquences.
Donc on peut anticiper ça. Comment ça se passe, Jean? Dites-nous, là, dans la nature, il y a une guêpe, là.
Il y a différentes façons de l'anticiper. Lorsque vous promenez près d'une ruche, d'abord, les abeilles n'attaquent jamais, elles se défendent. Elles n'attaquent jamais. Donc elles vont défendre leur maison. Une gardienne va venir vous regarder. Si vous insistez, elle va vous piquer. Et en vous piquant, elle va émettre un petit parfum que j'ai senti, odeur citronnée.
Ah bon?
Eh oui, mais c'est un message qui veut dire « je demande des renforts ».
Ah ouais, oh là là.
Et vous allez attendre 10 secondes.
Là, il faut partir.
Et en 10 secondes, les renforts arrivent.
Ah bon?
Et c'est un autre langage, par phéromones, par parfum. Et vous avez un phéromone qui ont des significations.
Bon, vous écrivez, si la fleur n'est pas butinée et donc pas fécondée, elle meurt sans fruit. Meurt avec elle, un jour ou l'autre, la plante qui la porte. Meurt avec elle, l'animal qui la broute. Meurt avec elle, l'homme qui n'a plus ni fruits, ni légumes, ni viande. Meurt avec elle, l'humanité.
Oui.
C'est la leçon de ce livre.
Oui.
Parce que les abeilles disparaissent de plus en plus. Chaque année, elles décroissent. Qu'est-ce qui peut se passer, Jean-Meurice? En conclusion ?
En conclusion, il se passera une catastrophe, parce que ce que vous décrivez là, tout le monde le sait depuis 15 ans, les scientifiques le savent, les apiculteurs le savent, les politiques le savent. Qu'est-ce qu'on fait ? Rien. Parce que l'abeille était un petit animal, mais insignifiant. Comme le Covid était un virus insignifiant, que personne n'a vu venir. Et personnellement, je suis désolé de conclure, je suis extrêmement pessimiste. Extrêmement pessimiste. Les abeilles disparaissent, et on ne fait rien.
Et on ne pourra rien faire pour compenser la disparition des abeilles.
On peut faire quelque chose, c'est d'arrêter tout de suite les pesticides agricoles.
Oui, oui.
Tout
vite.
Simplement.
Donc y compris dans son jardin ou sur son parking,
absolument.
Quand on veut désherber parce qu'il y a de mauvaises herbes, il ne faut pas le faire.
Il ne faut
pas utiliser de pesticides.
Et non.
Jamais.
Et non.
Faites attention et prenez soin des abeilles, finalement. Et puis si elles vous regardent et qu'elles vous piquent avec une odeur, fuyez.
Et puis lisez ce très beau livre avant la catastrophe.
C'est ça.
Non, si je peux rajouter quelque
Allez-y,
chose, c'est
Catherine.
Vrai que c'est un constat très pessimiste et très réaliste. On est émerveillé par cet insecte et je pense que l'émerveillement peut nous aider. Parce que l'émerveillement, ce n'est pas de la niaiserie, ce n'est pas de la mièvrerie. C'est vraiment observer, comprendre et... agir, j'espère.
Merci beaucoup Catherine. Merci Catherine Meurice. Merci Jean Meurice. Merci d'être venu dans la librairie francophone estivale. L'esprit de la ruche, la vie secrète des abeilles est paru aux éditions Ouest France. Chaque semaine dans la librairie francophone estivale, on vous offre un titre joué en acoustique dans notre studio. Voici Morricante qui nous a quitté l'année dernière et qui nous avait offert un moment délicat dans notre studio peu de temps avant sa mort. Morricante avec Adama Condé qui interprète Douba.
Thank you. télé, caro, caro, dépied du tunnel, cogna, tété, tilana. Télé, caro, caro, gnati, du tunnel, po, gnati, tété, silan. Allo, bah, qui se bina, campo, la lol, à la sara, gnati, la vie, à d'abord. À d'abord, du vanidanka, pour roya, monsieur, voilà. Télé, caro, caro, n'y a-t-il dit une allébo, n'y a-t-il été l'an. Allo, bah, qui s'est bien à gambo, l'allo, à la sara, n'y a-t-il la vie, à d'abord. À d'abord, d'abord, du vanidank, au royaume, ma soeur, voilà. Nikande, aluma duba ku ni korolo to nya koro nya folu nyana a duba didina ke duba da dinati duba ditila a nyatina ni ulila ke matil jelilu yiduba ko nikande aluma duba ku ni korolo to nya koro nya folu nyana a duba didula ke duba da kirilati duba ditila Aluba kese binaga volalo, Allah sara kwanelula aludafo. Adafo adafo duba ni danka horo ya masoro pala.
C'était Maury Kanté dans la librairie francophone estivale.
La librairie francophone estivale. Emmanuel Kérad.
Chaque semaine pour cette nouvelle saison, on vous propose deux livres de poche. Le premier est choisi par un libraire francophone. On part tout de suite à Dakar, au Sénégal, dans la librairie Plume du Monde. Bonjour Souleymane Gueye.
Bonjour Emmanuel.
Comment allez-vous Souleymane?
Je vais très bien, vous-même?
Ça va, écoutez. Pouvez-vous nous décrire ce que vous voyez par la fenêtre ou la vitrine de votre librairie? Faites-nous voyager à Dakar.
Alors, lorsque vous venez à Plume du Monde, aujourd'hui nous avons une belle vue sur le monument de la Renaissance,
oui,
qui a été légué par l'ancien président Abdoulaye Wade. Mais on en profite encore pendant quelques temps parce que il y a la bétonisation de Dakar. Mmh. Et on a un beau R+3 qui est en train de se construire juste en face de notre librairie.
Ah oui, d'accord.
Voilà.
Ouais. Donc ça va gâcher la vue, forcément.
C'est ça, exactement.
Bon, et on en profitez-en. Profite pour le moment. Oui, c'est ça, profitez-en. Bon, quel livre de poche conseillez-vous aux auditeurs pour l'été, puisque c'est le principe de cette séquence, de proposer un livre de poche pour les vacances?
Alors, le choix a été assez difficile, mais il s'est porté sur Mourambi, le livre des ossements, de l'auteur sénégalais Boubacar Boris Diop, qui est paru aux éditions Zulma. Mmh. C'est un roman qui s'intéresse au génocide des Tutsis qui s'est déroulé au Rwanda entre avril et juillet 1994. Le héros principal, qui s'appelle Cornelius, est un Rwandais qui a longtemps vécu en exil, qui n'a pas vécu le génocide et qui revient dans son village natal qui est Mourambi. Et l'auteur, à travers ce héros, on découvre en fait toute la réalité de ce qu'a été ce génocide, son ampleur et toute sa barbarie. Donc c'est vraiment un voyage auquel Boubacar Boris Diop nous invite pour découvrir ce génocide.
Parfait. Donc un livre qui raconte une histoire, mais qui apprend aussi des choses sur l'histoire du Rwanda, entre autres.
Exactement.
Boubacar Boris Diop, qui est sénégalais, hein, il est né à Dakar. Et son livre Mourambi, le livre des ossements, est paru chez Zulma Poche. Merci beaucoup Souleymane Gueye.
Merci à vous Emmanuel. Merci pour votre invitation.
Mais je vous en prie, vous êtes libraire à Dakar, je le rappelle, dans la librairie Plume du Monde au Sénégal, où on écoute la librairie francophone estivale sur RFI tous les week-ends de l'été. Voilà, allez acheter vos livres chez lui. À bientôt Souleymane.
Merci Emmanuel.
Et un autre conseil aujourd'hui, c'est le médecin et auteur québécois Serge Marquis, connu pour Pensouillard le hamster ou encore On est foutu, on pense trop. Son essai Le jour où je me suis aimé pour de vrai est sorti en poche chez Point. Bonjour Serge Marquis.
Bonjour à vous.
Vous abordez la question de l'ego. Là aussi, on est foutu, on pense trop à son ego.
Ah oui, définitivement. En fait, l'attention est accaparée constamment par l'ego. Et c'est ce qui est très intéressant d'un point de vue neurologique. On sait maintenant que l'attention ne peut pas être à deux places en même temps. Alors, si elle est accaparée par toutes les préoccupations de l'ego, elle ne peut plus être dans le présent, elle ne peut plus être avec l'autre, elle ne peut plus être dans l'émerveillement, dans la créativité, etc. Donc, c'est très important de prendre conscience de ça pour être capable de vivre pleinement nos vies.
Et vous dites que l'ego, c'est un oignon.
Ouais. Ben, en fait, c'est le résultat d'un processus qu'on appelle le processus d'identification. On s'identifie à toutes sortes de choses, à ce qu'on possède, on s'identifie à nos idées, à nos croyances. D'ailleurs, ça mène très loin parce que le problème est que quand le cerveau est entré dans le processus d'identification avec une pelure identitaire, c'est pour ça que j'utilise l'image de l'oignon, le cerveau à notre époque ne fait plus la distinction entre la perception d'une menace à notre survie et la perception d'une menace à la pelure identitaire. Il déclenche la même réaction biologique de stress, de lutte ou de fuite. Par conséquent, si on s'est identifié à un objet et qu'il y a des commentaires qui sont portés sur l'objet, par exemple un vêtement qu'on porte, et que ces commentaires sont négatifs, on va entrer en mode lutte ou fuite.
On le prend pour nous, ouais, c'est
ça. On le prend pour nous.
Ouais. Donc, alors c'est vrai, par exemple, une fonction, quand on incarne une fonction, vous l'expliquez très bien ça. Par exemple, je sais pas, un médecin, journaliste, homme politique, policier, pompier, en fait une fonction avec laquelle on peut se valoriser.
Ouais.
Elle fait partie intégrante de nous. Voilà, on se prévaut de cette fonction.
Ouais.
Et donc à partir de là, l'ego, finalement, nous submerge.
Oui, tout à fait, parce que on est tellement identifié à ce que nous faisons, mais ça fait très longtemps qu'on fait ça. On s'est identifié aux objets qu'on fabriquait, donc on mettait notre signature dans une pointe de flèche. Alors on s'identifie à ce qu'on fait. Aujourd'hui, on s'identifie à sa profession, ce qui crée des dommages majeurs, parce que quand une personne reçoit des commentaires négatifs à propos de ce qu'elle fait. Un artiste, par exemple, qui crée une œuvre et qui reçoit des critiques négatives à propos de son œuvre, va prendre ces commentaires-là à son propre sujet et va entrer dans un état parfois dépressif parce que c'est comme si on avait fait des commentaires sur son être.
Mais c'est un peu ça.
Non.
Mais si, quand on incarne les choses, quand on est artiste, par exemple, puisque vous citez les artistes.
Oui, mais je distingue tout ce qui est de l'ordre de l'ego, des pelures identitaires, de ce qui en nous ne vieillit jamais. J'emprunte cette phrase-là à Marie de Hennezel, je la trouve très importante, parce que la créativité, ça fait partie de ce qui en nous ne vieillit jamais. Et ce n'est pas une pelure identitaire, la créativité. Je ne perds pas ma créativité s'il y a des critiques négatives
bien
à propos
sûr.
D'une œuvre. Je demeure créatif. C'est très important. Je ne perds pas ma créativité si je perds mon emploi. Malheureusement, il y a des personnes qui ont l'impression d'être complètement débranchées de leur créativité parce qu'elles ont perdu leur emploi. Et c'est fondamental de reconnecter avec ce qui en nous ne vieillit jamais.
Et vous dites qu'il faut être dans la présence.
Ouais.
Alors là, qu'est-ce que c'est ça, la présence, Serge Marquis? Parce que vous dites que quand on s'inscrit dans l'instant présent, finalement, il ne faut pas s'inquiéter ni de l'avenir ni du passé.
Non.
Comment on fait, docteur?
On amène son attention tout simplement dans le présent. Je suis là en train de vous écouter, je ne suis plus en train de me dire qu'est-ce qu'on va dire de mon livre, etc., etc. Ça, quand je suis à ce niveau-là, je ne suis plus dans le présent. Je peux m'en rendre compte. L'attention ne peut pas être à deux places en même temps, je le rappelle. Et l'attention peut être facilement accaparée par les peurs que l'ego. L'ego est constamment dans la peur.
Mais on a tout le temps peur. On a peur de perdre son travail, on a peur pour ses enfants, on a peur d'être malade, on a peur de perdre des proches, on a peur de la séparation, on a peur de tout ce qui peut arriver de négatif et qui finalement arrivera un jour.
Ah oui,
c'est affreux, docteur. Comment fait-on pour se sortir de là? On a tous une peur.
Oui, absolument. La peur est une des émotions les plus primitives que l'être humain a pu connaître. C'est, entre autres, la peur a permis à l'espèce humaine de survivre. Si on n'avait pas eu peur, on n'aurait pas survécu. Mais aujourd'hui, je ne parle pas de la peur qui est saine. Il y a une peur qui est saine. Mais il y a des peurs qui sont complètement inutiles, ridicules, absurdes.
Par exemple.
Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Qu'est-ce qu'on va dire de moi? Maintenir mon image, etc., etc., à gauche et à droite. Des discours complètement inutiles qui nous empêche d'être présents, justement. Parce que quand l'attention est accaparée par ces discours-là, mon attention n'est plus ici. Et ce que j'ai essayé, encore une fois, de démontrer, c'est qu'au quotidien, il y a deux façons de se comporter neurologiquement. Il y a toute la dimension égoïque et il y a la dimension de la présence. Et on oscille constamment entre les deux. Et en ce qui me concerne, c'est dans la présence qu'on se développe et qu'on savoure son existence réellement.
Et le livre de Serge Marquis, Le jour où je me suis aimé pour de vrai, est paru chez Point. On termine cette émission avec le bonus créole. Aujourd'hui, c'est le choix de Gaël Faye qui a choisi l'écrivain haïtien Jean-Claude Charles.
Oui, j'ai choisi Jean-Claude Charles, un roman qui m'a beaucoup plu, que j'ai lu dernièrement, qui s'appelle Manhattan Blues.
Ouais.
Il a été réédité, c'était un écrivain, j'avais entendu parler de lui, mais je ne l'avais jamais lu, et grâce donc aux éditions Mémoires d'Encrier, j'ai pu lire ce livre et d'ailleurs j'ai pris toute la collection.
Ouais. Enfin, grand auteur haïtien.
Exactement.
Qui est porté aujourd'hui par René Saint-Éloi, qui dirige Mémoires d'Encrier. Ouais. Et qui a écrit ce livre incroyable.
Oui, il est incroyable. Enfin, il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup de philosophie, et puis il y a une déambulation dans la ville de New York pour les gens qui aiment cette ville. C'est teinté de musique et de l'énergie. C'est une histoire d'amour comme ça entre Ferdinand et puis deux jeunes femmes. Et j'aime bien dans la préface, Dany Laferrière dit que c'est une histoire, on aurait pu en faire un film, et ce film aurait pu être fait par Spike Lee, accompagné de Woody Allen. Oui. Et c'est tout à fait ça. C'est comme une rencontre entre ces deux styles.
Un livre ouvert sur la tolérance, grand humanisme.
C'est ça. Il y a beaucoup de réflexions sur le racisme, oui. Sur l'Amérique. Ça se passe dans les années 80, mais il n'a pas pris une seule ride. Vraiment, c'est un livre que je conseille si on veut passer un bon moment.
Jean-Claude Charles, qui est mort à Paris en mai 2008. Manhattan Blues est paru aux éditions Mémoires d'Encrier. Et c'est le choix donc de Gaël Fay. Merci Gaël. On se quitte avec de la musique haïtienne et l'artiste Bello.
Yon bel jour mois d'août, bolon même t'es rivé. Soleil bat kofin bouge, mal dans des vagues yon cap chanté. Mam gade sous plage là, je vais tout mouillé. Ou camper sous rivage là, avec de belles têtes de gouttes. Moi, vent, c'est bon côté. Ou garder mon sourire. Moi, senti m'attirer. C'est comme ça, ou les mentir. Hey, hey, hey. J'ai vu ou tellement belle. Ou gué la douce, mon rajiment. Ou gué l'eau d'un canal. Ou semble sweet, mon maman. Ou oh, maman. Chepi pre ou de ou vi goute ou ou bon la men tan kou nou te deja kone ou di mwen a deme kom si nou te deja reme le tan pou mwen kembe ou te gen tan sove ap gade ou kap rale ou semble yon ti pom kajou. Ou campé qu'aime rété, c'est qu'on s'aime d'amour. Oh, oh, oh. Chérie, ou tellement belle, ou gué la douce qu'on gâche une mort. Ou gué, on coule la miel, ou s'en déçoit tout non, non. Cou maman.
Et c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook, Twitter et Instagram pour communiquer avec vous. À la rédaction, Jean-Philippe Véret de France Inter, avec les équipes de la RTBF, de Radio-Canada, de la RTS et de RFI. Charles de Cilia avec Thomas Langlin pour la réalisation et la technique. Valentine Chédebois à la prog musicale. La semaine prochaine, nous irons en Suisse, en Arménie et aux États-Unis notamment. Et vous entendrez Grégoire Delacour, Lionel Trouillot, Clémence Rochefort, François Hollande, Caroline Lamarche ou encore Christine Salem. Merci d'avoir écouté la librairie francophone estivale. Bon week-end et bel été à tous.